C'est un de mes textes favoris. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Un autre texte dans la Genèse, chapitre 11, verset 27. « Voici la postérité de Terah. » Terah engendra Abraham, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nakhor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Jiska. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Haran, ou Charan, et ils y habitèrent. Deux textes, puis un troisième que je vais lire aussi avec vous, dans Habacuc. Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà. Chapitre 2, verset 4. « Voici, son âme s'est enflée. » Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. J'aime ce dernier verset d'Habacuc. C'est un message pour Gilles. Dans ma jeunesse, l'Église apostolique choisissait tous les ans un verset. C'était ce qu'on appelait un motto ou un mot d'ordre. Tous les ans, il y avait un verset qui était choisi et qui, lors de la convention de la Pentecôte, était diffusé à l'Église. Et c'était en 74-75, le motto de l'Église apostolique pour son année, c'était « Le juste vivra par sa foi ». Je ne sais pas si ce serait une bonne idée de demander aux Églises, alors chacune leur tour, de choisir un verset qui serait un mot d'ordre d'espérance. Voilà, de guidance, là aussi, spirituelle, pour l'Église nationale. Mais je me rappelle que cette année-là, j'étais très jeune, je devais avoir 17-18 ans, on attendait au moment de la Convention ce nouveau verset, de manière très, très impatiente, comme ça. Et quand il était dévoilé, on se disait, ah, c'est cette parole-là qui nous accompagnera tout au long de l'année. Mais moi, en tant que jeune, je l'attendais. Les groupes de jeunes étaient là, on se disait, on avait une petite carte qui était fabriqué par l'Église, et puis on avait ce mot d'ordre pour l'année. Le juste vivra par la foi. Ça ne m'a jamais abandonné, ce verset-là. C'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Le juste vivra par sa foi, ou par la foi. Et je cite ce verset d'Habacuc parce que nous lisons dans le livre de la Genèse l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham. Pas encore Abraham, mais Abraham. Et cet Abraham s'inscrit dans une famille. Je n'avais pas fait le lien avec ton témoignage, Samuel, mais je pense que cette parole est une parole aussi qui peut t'enrichir et te montrer aussi des directions ou des positions à prendre. Mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Abraham s'inscrit dans une lignée humaine, une famille. On sait qu'il y a un père qui s'appelle Terah. On sait qu'il y a deux frères, Nakhor et Haran. Il y en a qui vont connaître des destins tragiques et d'autres qui vont rentrer dans les promesses de Dieu. J'ai envie de dire, comme toutes les familles que nous connaissons et qui sont les nôtres. Terah a eu trois fils et le plus jeune est mort à Ur. Nous ne savons pas de quoi, simplement... qu'il est mort du vivant de son père. Et puis il y avait Abraham qui était l'aîné et qui s'appelait Père élevé. Père élevé. Nakhor ou Nahor, son frère, ça voulait dire celui qui renacle, celui qui rouspète, qui hésite. Et puis il y a cette volonté de Terah de changer d'horizon. Il décide de quitter Ur pour aller dans une autre ville plus loin qui était Haran. Il y a parfois dans la vie de famille cette décision de chercher le meilleur pour soi, pour sa famille. C'est ce que fait ce père. Il va dans une ville qui est une ville commerciale, commerçante. Il va chercher le meilleur humainement. Il quitte un pays qui est dominé par des faux dieux, par des traditions, par du polythéisme. Mais il ne fait qu'un bout du chemin. Il ne voit pas ce qui est le plus important. Alors il déplace toute sa famille avec son fils Abraham, sa belle-fille Sarah, son deuxième fils qui a épousé la nièce du fils qui était décédé. Et toute cette famille-là va s'installer dans ce qui semble le plus profitable, le meilleur. Abraham fait partie de cette famille, et si nous regardons nos familles, nous nous disons, nous sommes un peu comme Abraham, avec des familles qui ont des histoires, des destins très, très différentes en fonction des générations. J'en parle puisque mes filles sont avec nous ces jours-ci, et j'en parlais hier des générations passées. Je suis à moitié vietnamien. Mon père, je ne l'ai pas beaucoup connu. Je crois qu'en tour, j'ai dû le connaître vraiment 8 jours, de manière active. L'histoire, c'est qu'il est venu travailler dans la marine française, il était cuisinier. Il m'a appris à faire des nems, c'est tout ce qu'il m'a appris, et à manger avec des baguettes. C'est un héritage un petit peu léger. Je sais qu'il a, pendant la guerre 39-45, coulé avec son bateau, qu'il a barboté dans la Manche pendant 24 heures, qu'il a été repêché, envoyé en Angleterre. C'est toute mon histoire. Quand on regarde l'histoire d'Abraham, on est sur une histoire familiale classique. Je veux le meilleur pour mes enfants. Puis en même temps, je ne vais pas au bout de ce qui pourrait être le meilleur. Abraham s'inscrit dans cette histoire-là. Lorsque on parle d'Abraham, on dit qu'il est le père des nations, Genèse 17, le père des croyants dans l'épître aux Romains, et il est bien entendu le père d'Isaac, père d'Ismaël dans la Genèse. Mais avant d'être père, Abraham était le fils de Terah, fils de son père. Après la mort de son plus jeune frère, il suit son père avec son épouse Sarah. Et il suit parce que son père espère, attend, fait reposer sur son fils son espérance de quelque chose de meilleur, de différent. Sarah, ça veut dire princesse. Milka, la deuxième belle-fille, ça veut dire reine. On peut dire que ce père, Terah, avait des objectifs haut placés. J'ai fait épouser à mon fils une reine et à l'autre une princesse. Abraham s'inscrit dans cette histoire-là. Et la première, peut-être, souffrance d'Abraham, sur laquelle on peut s'interroger, est-ce que ce n'est pas d'avoir la difficulté de répondre aux attentes de son père ? Terah met sa famille sur la route de la promesse, il veut le meilleur. Il se rend dans ce grand centre commercial qu'est Haran. Et puis, il dit de son fils, ce sera un père élevé. Et Abraham porte les attentes et les espoirs de sa famille. Est-ce que nous pouvons, est-ce que vous êtes peut-être, vous aussi, porteur des espérances de vos parents, de vos proches, voire porteur des espérances de la société qui vous entoure ? Voilà ce que tu dois être. Bon, d'accord. D'accord. Je vais être cela parce que toi, mon père, ma mère, ma famille, vous, vous avez décidé ou vous désirez, ou la société dans laquelle je suis veut que je sois. Je travaille avec des femmes qui sont dans les addictions. Un grand nombre d'entre elles sont dans la souffrance parce qu'elles sentent peser sur elles le poids de ce que la société attend d'elles. Voilà ce que tu dois être. Je me souviens d'une femme qui était une femme qui ne voulait pas d'enfants. Un scandale. Les femmes sont faites pour enfanter. Elle ne voulait pas d'enfants. Elle était dans une souffrance parce que toute sa famille, ses parents, n'arrêtaient pas de lui renvoyer le fait qu'elle ne correspondait pas au schéma de ce que devait être une femme. Voilà ce que mon environnement décide que je sois. Voilà les croyances même que je cultive parce qu'on m'a dit « Tu seras ainsi, mon fils, ma fille. » Or, l'appel d'Abraham est un appel bien particulier. C'est ce qu'on appelle en hébreu la paracha du Lech Lecha. Quand le texte commente avec cette parole, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Les Juifs la qualifient, comme tout l'Ancien Testament, d'un passage, une paracha, qui est la paracha du Lech Lecha. Là où nous lisons « Va-t'en de ton pays », l'Hébreu dit « Lève-toi pour toi ». Lech Lecha. « Va-t'en pour toi. Lève-toi pour toi. » C'est une autre signification bien plus importante que le simple fait de dire « Lève-toi et va à tel endroit. » Non, la parole de Dieu dit à Abraham « Lève-toi pour toi. » Pour ce que tu es, ce que tu dois devenir, ce que tu es appelé à être. Et si je complétais cette parole de l'Ancien Testament, je dirais, lève-toi pour toi, pour ce que tu es qui a été racheté par Christ à la croix. L'œuvre de la croix a été accomplie, posée par Dieu en Jésus-Christ, pour que nous devenions enfin ce que nous sommes. Ton témoignage ce matin nous dit et nous parle de cela. Je veux devenir ce que Dieu m'appelle à être. Quel que soit l'héritage que j'ai reçu, quels que soient les attachements que j'ai dans ma famille, quelle que soit l'identité que j'ai, qu'on m'a posée comme étant, voilà, crois que ce que tu es doit être cela. J'en parle davantage aux femmes qui sont là et je le dis avec sérieux. Je crois dans le ministère féminin parce que je crois que Dieu appelle les femmes à le servir et à bâtir l'Église au même titre que les hommes. Ah, je sais que ça peut déranger et que certaines d'entre vous peuvent dire non, pas pour moi. C'est ma conviction. Lève-toi pour toi. Va vers toi. Deviens ce que Dieu a déposé ou créé en toi. Je travaille depuis quelques semaines avec un groupe pour l'Église sur la création. J'y suis allé un peu à reculons, je dois le dire. On a beaucoup insisté pour que je m'y colle. Et je l'ai fait. Et je disais à ma femme, quelle chance ça a été qu'on m'ait sollicité. Depuis quelques semaines, je sonde l'Écriture sur le Dieu créateur. Le Père, je crois en Dieu le Père, créateur des cieux et de la terre, dit le symbole de Nicée-Constantinople, le symbole des apôtres, ce credo qui commence par « Je sais, je crois dans le Dieu créateur du ciel et de la terre ». Et en fait, en travaillant sur ce texte et sur cette thématique de la création et du Dieu créateur, j'ai redécouvert l'approche d'un théologien qui s'appelle Karl Barth qui dit « La création, le monde créé, C'est en quelque sorte le théâtre que Dieu pose pour manifester sa relation avec son Fils et manifester sa rédemption en Christ pour les créatures que nous sommes. Le monde créé, c'est un théâtre que Dieu a voulu pour y inscrire sa relation avec nous en Jésus-Christ. Un monde n'avait pas trop d'intérêt, lui tout seul. Le monde a été créé pour que Dieu manifeste son amour vis-à-vis de l'homme. L'univers tout entier est le théâtre de la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme, pour moi. Waouh ! Vous imaginez ? Il a créé l'univers tout entier pour qu'il puisse exprimer son amour pour moi. Je regarde le ciel, les étoiles, la terre. C'est le théâtre dans lequel Dieu veut manifester son amour vis-à-vis des hommes. Et quand il dit « je veux manifester mon amour », je veux le manifester, y compris dans ta vie aujourd'hui. Je veux me révéler comme le Dieu de la création qui veut créer ce que tu es et le faire devenir. Qu'est-ce que Dieu a créé dans ta vie ? Qui es-tu ? L'air, le rat, va pour toi. Ou on pourrait traduire aussi par « va vers toi ». C'est difficile à le rendre en français. Mais le départ d'Abraham, de Aaron, correspond aussi au début d'une quête de sens sur lui-même et sur Dieu. Ce n'est pas simplement un voyage géographique. Je ne voudrais pas qu'à la fin de cette prédication, tout le monde se lève en se disant « j'ai bien compris la prédication, je dois partir pour Jérusalem, pour Sichem ». Il y en a qui vont même jusqu'à Tahiti, en parlant d'Émilie. Non. Il ne s'agit pas d'un voyage géographique. Comprenons-nous bien. Il s'agit de ce voyage intérieur pour quitter les lieux anciens et entrer dans des lieux nouveaux. C'est le discours que Dieu parle ou que Jésus évoque avec Nicodème. Il faut que tu naisse de nouveau, que tu fasses naître en toi, qui est un vieillard, cette vie nouvelle. Et j'ai envie de dire, cette naissance nouvelle, ce n'est pas celle de la conversion non plus. C'est cette naissance répétée jour après jour, pas après pas, de foi. Le juste vivra par la foi. Que j'accomplis cette naissance ou cette possibilité de vivre de nouveau, de faire vivre de nouveau, d'aller vers moi. Lève-toi et va pour toi. Oh, on va me dire, oui, mais alors ça, c'est un ordre qui est un ordre égoïste. Être centré sur toi. C'est ce que Jésus dit à quelqu'un qui lui dit qui est mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est impossible d'aimer l'autre. Sinon, de ne le faire que par devoir. Si je ne commence pas par aller vers moi et à prendre soin de ce que je suis et de faire advenir qui je suis. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que je suis prêt à faire ce chemin ? Le témoignage que nous avons entendu ce matin, c'est un témoignage qui parlait de l'humilité. L'humilité de quelqu'un qui dit « j'arrête de vouloir être par moi-même » faire par moi-même, mais je souhaite laisser Dieu me révéler et faire advenir ce que je suis. Est-ce que je suis prêt ? On est dans quelque chose d'extrêmement important, d'essentiel. Est-ce que je suis prêt ? Quel que soit le nombre des années de conversion, je me tourne vers Agnès et pas vers Jean-Louis exprès. Quel que soit le nombre, est-ce que je suis prêt à faire advenir encore aujourd'hui ce que Dieu veut faire naître en moi ? Et je parle aux plus jeunes qui se sont donnés à Dieu récemment et ceux qui sont entre les deux. Est-ce que je veux faire advenir, aller vers moi, sortir des sillons, des chemins tracés par ce qui nous est transmis par notre famille ? Oui, mais Terra a dit, tu sais, Seigneur, qu'on devait s'installer là, que notre recherche était d'établir notre commerce, de nous installer, de nous enrichir, d'avoir le confort, etc. lève-toi, va vers toi-même et trouve en toi le chemin que je te montrerai. Ah oui, mais Seigneur, ta parole, elle est bonne. Mais il y a quand même un problème. Nous, on est ici à Haran. Tu as vu toutes les caravanes qui passent? Le commerce qu'on peut faire? Toi, tu me dis, va vers le pays que je te montrerai. Mais ça, c'est du futur. Je ne vois rien pour l'instant. Je ne vois rien. Comment est-ce que je vais me lever? Pourquoi? Quelle motivation serait là pour que je me lève et que je me mette en route vers quelque chose d'inconnu? Mes yeux voient là, à Haran, ce qui peut satisfaire mon cœur et ma vie. Lève-toi. Sois un juste qui marche par la foi. C'est gênant, là, parce que je dirige mes regards, il n'y a qu'une personne. Après, il va se dire, je suis à peine concerné. Tu préfères que je regarde par là? Non, ça va? Le juste vivra par la foi. Lève-toi vers le pays que je te montrerai. C'est Paul Tournier, dont je relis régulièrement des pages, qui était un exégète, mais aussi un homme qui savait accompagner et connaître le cœur de l'être humain, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'homme et son lieu ». Où est-ce que je suis ? Il reprenait, j'en parle parfois avec Francine, mais cet épisode de l'été 40, après la défaite de la France, quand la Suisse s'est trouvée encerclée par les armées d'Hitler et de Mussolini, et il y a un général qui s'appelait le général Guisan, et il était le commandant en chef de l'armée suisse, et il a appliqué ce qu'on appelle le plan de réduit national. Un réduit national, ça ne veut pas dire réduire. C'est une expression, c'est un mot suisse qui veut dire ranger, organiser, hein, réduire. Une fois, ma femme est partie de chez des amis en disant « Bon, il faut qu'on aille réduire les enfants. » Les gens nous ont regardés avec un regard un petit peu interrogatif. Et le grand plan de réduit national, c'était face à l'adversaire, on va s'organiser, on va préparer les choses. Et puis, il s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait organiser les choses en s'appuyant sur ce que nous sommes? Alors, il est allé sur une prairie, près du Grütli, alors c'est en Suisse alémanique, c'est la prairie où en 1291, certains cantons, en tout cas certaines régions de Suisse, se sont retrouvés dans cette prairie-là pour dire « Aujourd'hui, nous sommes un pays. » 1241, ça a été le serment du Grütli. C'est le lieu où nous nous fondons, où nous existons. Et c'est de là que le général Guisan a pu remobiliser la Suisse tout entière face à l'adversité nazie. Quel est notre lieu? Quel est notre lieu, frères et sœurs? Sur quoi est-ce que nous fondons notre vie? Quand les Juifs reviennent de Babylone, ils ont commencé par poser les fondements du temple. Et là, vous savez, il est dit qu'il y a eu des cris de joie quand les fondements ont été posés du temple. Quel est le fondement sur lequel nous reposons? Quel est notre lieu? Et je vous le dis, il n'y a pas d'autre lieu où être et devenir qu'en Jésus-Christ. Pas d'autre lieu. Est-ce que ma vie est là? Ancré, reposant sur ce fondement. Paul Tournier disait, l'homme a besoin d'un lieu, de s'attacher à un lieu pour être. Quand Abraham arrive en Canaan, son premier geste, c'est d'acheter un champ. Parce que là, c'est le lieu où je suis, où les promesses de Dieu pour moi, dans ce pays, là pour les Juifs, c'était très géographique. Et il a acheté un champ et la motivation, il a acheté en Genèse 23 le champ d'Éphron pour avoir un lieu pour enterrer sa femme qui était décédée. Parce que c'est là que ma vie, jusqu'à son terme, sera. Est-ce que le lieu qu'est Jésus-Christ, ce fondement, est le lieu où ma vie repose véritablement? Le témoignage, là encore, que nous avons entendu ce matin, c'est cela. Ma vie est fondée en Christ. L'important pour Abraham, c'est de se mettre en marche et découvrir le sens de la promesse que Dieu lui accorde, lui adresse. Une promesse qui reste imprécise, vers le pays que je te montrerai. Oh Seigneur, dis-moi la gare d'arrivée, au moins. Je ne vais pas monter dans un train sans savoir où je vais. C'est là que se pose pour lui le principe de marcher par la foi. Est-ce que tu es prêt à marcher par la foi? Ou est-ce que tu veux des certitudes? Est-ce que je veux, dans ma vie, avoir les indications précises avec la durée du trajet, les circonstances du voyage, et puis aussi le lieu d'arrivée? Je me rappelle que quand j'ai terminé mes 3 années de formation biblique et mon année de stage pastoral, dans le... quasiment le dernier mois, parce que je ne suis pas quelqu'un qui se préoccupe trop de l'avenir, dans le dernier mois de mon stage pastoral, j'ai dit à Dieu, dis donc, dans un mois c'est terminé, je fais quoi? Je fais quoi, Seigneur? J'étais au Havre, ma ville, un petit peu comme Abraham à Haran. Tu sais, Seigneur, je suis bien, je connais, je maîtrise, je connais la ville, je connais les gens, je connais l'église, mais je fais quoi? Est-ce que c'est là? Et moi, je n'avais pas du tout envie de rester au Havre. Je me disais certainement que Dieu a des plans, mais est-ce qu'ils sont pour moi ici au Havre? S'il avait dit oui, je serais resté. C'était le plus facile. Certainement. Et puis je dis, donne-moi un signe de ce que tu veux. Dans la quinzaine, il y a un certain Michel Cannon qui m'a appelé. Il me dit, depuis quelques semaines, on prie. Et avec le responsable de la Bretagne, on a cette conviction, c'est que tu dois venir à Lorient. Moi, j'avais pensé à tout sauf à ça. Enfin, j'avais dit, Seigneur, partout, peut-être la Suisse, le sud de la France. Nice, c'est très beau. Vous savez, je dis ça parce qu'un jour à Pontarlier, on était en visite, et il y a un couple qui était là et qui disait, nous, on a à cœur de servir le Seigneur. On a eu un appel, je ne sais plus si c'était pour Nice ou Monaco. J'ai vu, c'est un des deux. Mais en tout cas, on se dit, tiens, un appel pour Nice et Monaco. Nous, on galérait, vraiment, on galérait en Bretagne. Et on se disait, pourquoi personne n'a jamais d'appel pour la Bretagne? Nice, Monaco, j'aime bien. Et quand le Seigneur a ouvert cette porte-là de la Bretagne, j'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté. Si c'est ta volonté, j'y vais. Je suis là depuis plus de 38, 40 ans presque. 38 ans. Abraham a fait ce choix d'aller et de répondre à l'appel de Dieu. Mais lorsque Dieu lui demande de partir, d'aller vers lui-même, il dit « va vers toi, va pas vers un lieu précis géographique ». Bien sûr, il y aura une destination, mais lève-toi pour toi. Interroge-toi aujourd'hui, quel est ton appel? Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi, de ta vie? Va vers toi. Pas « va vers quelque part », va vers toi. Que ce mot d'ordre soit le préalable au fait que tu te lèves et que tu ailles quelque part. Tu peux aller vers Kevin, si tu vas vers toi, tu peux aller ailleurs. Mais va vers toi d'abord. Mais pour cela, il faut quitter. Ce qui est proposé à Abraham, c'est de quitter et d'abandonner des choses qui sont dans sa vie. Et ça me fait penser à un texte que j'utilise, mais qui est classique dans la préparation au mariage, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Je suis toujours étonné, enfin, non, je ne le suis plus véritablement, mais je marque mon étonnement à chaque fois que je fais une préparation au mariage en disant, pourquoi c'est à l'homme de quitter? Après tout, pourquoi c'est pas à la femme? Vous avez déjà posé cette question? Hein? Elle doit quitter aussi. Mais pourquoi Dieu dit à l'homme, clairement, tu quitteras... J'ai déjà ma femme qui réagit, je vais encore avoir des problèmes à la maison. Vous ne savez pas ce que c'est que de prêcher dans une église, ce qu'on doit vivre ensuite à la maison pour justifier les paroles prononcées. Mais j'aime bien cette notion. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé du mot de miséricorde. C'est toi qui a cité la notion de miséricorde dans un verset. Ce verset de Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, mais on peut le dire aussi des femmes. Il est parlé ici de quitter ce qui relève du lien et des croyances qui nous sont transmises par les générations précédentes, par nos parents, nos familles, notre pays. Quitte tout cela. Sors des croyances qui se sont imposées dans ta vie et qui t'empêchent d'aller vers toi, ou qui limitent cet aller vers toi. Ah ! Certainement que l'homme a moins de facilité à se créer son propre monde pour cultiver quelque chose de neuf. Alors je me suis souvent demandé, est-ce que c'est parce que pour la femme, il y a une chose, même si elle est sans enfant, mais il y a une chose qui est réelle, c'est que c'est de l'homme et de la femme la seule qui est capable de créer la vie, de donner la vie, de porter la vie. Et cette capacité, je crois que nous n'avons pas, nous les hommes, limite aussi notre ouverture naturelle à faire naître la vie nouvelle. L'homme quittera son père et sa mère. Il quittera, je dirais, les croyances. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Ma femme dit souvent de moi, « T'es bien un Français. » Quand ça l'arrange, elle me dit, « T'es bien un Vietnamien et un Asiatique. » Parce qu'il y a des croyances, là aussi, qui sont liées à mon histoire, à ce que je vis. Et nous sommes tous porteurs de cela. Nicodème avait cette problématique, quitter ses croyances et ce qui fondait sa vie. Et face à une naissance nouvelle, il était bien démuni. Va pour toi. Le projet de vie proposé à Abraham n'est pas égoïste. Il y a un ensemble d'écrits qui s'appelle la Mishnah dans la culture juive, qui est un commentaire de la parole de Dieu. La Mishnah dit ceci, « Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi ?» Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi ? Et ce commentaire de la Mishnah dit, « Il ne faut pas, dans notre recherche de nous-mêmes, commettre l'erreur d'être Abel. » Ça veut dire inconsistance, vanité, fumée. Ni Caïn, qui disait, son nom veut dire, j'ai acquis, tout est à moi. Mais plutôt d'être dans cette recherche permanente. Ne soyons ni Abel ni Caïn, nous soyons dans cette recherche de ce que nous sommes en Dieu. Et la conséquence de ce qui est proposé à Abraham, va-t'en de ton pays, va vers toi. Sors de ton pays. Vous voyez les trois étapes. Sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Vous savez, c'est le sens inverse de l'ordre missionnaire. Partez de Jérusalem, en Samarie, etc., et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, il dit, quitte tout ça, jusqu'à ce qui est peut-être le plus intime. Les croyances qui sont les tiennes, mais qui te sont transmises, afin que tu trouves en toi les croyances que je veux y poser. La foi qui peut être celle qui t'appartient dans ton relation avec moi. Et ceux qui suivent cet ordre-là, va-t'en, va vers toi, c'est « je te bénirai ». Comment avoir la bénédiction de Dieu ? Il n'y a pas d'endroit pour cela. Jean-Jacques n'est pas là, mais à chaque fois que je lis ce mot, je te bénirai, en hébreu, et en arabe, c'est baraka, avoir la baraka. Vous voulez avoir la baraka, la bénédiction ? Va vers toi. Recherche en toi ce que Dieu y a déposé. Fais naître en toi ce que Dieu veut faire advenir. Alors, je te bénirai. La bénédiction ne viendra pas de ta volonté de saisir ce que le monde te propose, ni de ce que ta famille veut que tu sois. Mon gros problème personnel, c'est le sens du devoir. Ma vie a été, je dirais, parasitée en permanence par le sens du devoir. Tout ça parce que je suis l'aîné de 8 enfants et que ma mère m'a toujours construit par des paroles qui disent « Tu dois faire parce que tu es le plus grand, tu es l'aîné, parce que j'ai besoin de toi, parce que j'ai raté ma première année de 6e pendant 5 mois, parce qu'elle était enceinte de mon frère, Michael, et qu'elle devait rester allongée. Donc du coup, J'avais trois, quatre frères et sœurs à faire manger, à préparer pour l'école, etc. Donc je suis resté pendant 5 mois à la maison, sans école, sans sixième. Donc j'ai redoublé ma sixième à cause de ça. Parce que je devais, et ça a été toute ma vie, un de mes problèmes, le sens du devoir qui m'a marqué dans tout ce que j'ai eu à vivre, ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie ecclésiale aussi. Je dois, je dois, je dois. Comment sortir de cette croyance transmise pour ne plus être dans le sens du devoir, de l'obligation? Peut-être est-ce quelque chose que vous connaissez, mais rentrer dans quelque chose qui est neuf et qui vient de Dieu et qui n'est plus de l'ordre d'une croyance imposée, mais de quelque chose qui fait partie de moi et que je n'ai pas encore découvert. Est-ce que tu veux rentrer là-dedans, dans cette dimension de vie? Quitte ton pays, le lieu de tes origines, la maison de ton père. Change d'endroit intérieur, ton lieu intérieur, comme dirait Paul Tournier. Va-t'en. Et il est sorti, il a quitté. Ça veut dire qu'il s'est converti, Abraham. Il s'est converti. Il s'est détourné de ce qui était sa vie. Est-ce que nous pouvons nous convertir régulièrement là où Dieu nous dit, sors de cela, quitte cela, quitte ta croyance, ce que tu penses de toi, ce que tu dois faire, vivre. On me crie de saisir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. Mais tu m'as dit de partir, faudrait savoir, Seigneur. Mais non, pars de là où tu es intérieurement et reviens à ce qui est essentiel et ce que Dieu attend de toi. Je vais te donner la bénédiction, la baraka, dit Dieu à Abraham. Tu deviendras baraka pour les autres. Bénédiction. Voilà, si nous acceptons de changer de lieu intérieur, ce que nous pouvons devenir. Est-ce que nous sommes prêts? Seigneur, nous voulons nous laisser interpeller par ton esprit, pas par un homme qui prononce des paroles, mais par ton esprit. Ce matin, Seigneur, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons entendu dans ce témoignage, nous voulons te dire oui, un oui profond et vrai, un oui de changement et de conversion, un oui qui fasse advenir, naître et grandir ce que tu as déposé en nous et que nous ne voyons peut-être pas encore. Fais naître en nous ta vie nouvelle. Que ton appel, Seigneur, nous l'entendions avec sérieux. Garde-nous de quitter ce lieu sans prendre ton appel au sérieux. Par ton esprit, Seigneur, nous te le prions, nous te le demandons. Donne-nous le vouloir, le faire d'aller vers nous-mêmes, vers ce que tu as créé en nous. Amen. Amen. On va inviter